Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir, 8 février 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. L'Iran ne conditionnera pas son économie à l'accord nucléaire, a déclaré le président Raisi. Toujours dans ce domaine, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les signataires occidentaux de l'accord sur le nucléaire de 2015 doivent prendre une décision efficace et sérieuse pour supprimer l'intégralité des sanctions anti-iraniennes. Le Hamas, mouvement de la résistance palestinienne, salue la suspension de l'adhésion du régime israélien à l'Union africaine. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les bases étaient prêtes pour négocier un accord une fois les sanctions contre l'Iran levées. Mais il a souligné que l'Iran ne conditionnera pas de son économie au plan global d'action conjoint l'accord nucléaire de 2015 avec les 5+1 dont la mise en œuvre a été violée par une sortie unilatérale américaine de l'accord en 2018. Le président Raisi, lors d'une rencontre à Téhéran avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, a répété que ce sont les États-Unis qui ont violé le plan global d'action conjoint et les pays européens n'ont pas rempli leurs engagements en vertu de l'accord, alors que l'agence nucléaire de l'ONU, dans différents rapports, a confirmé les mesures pacifiques de l'Iran. L'Iran et la Finlande entretiennent de très bonnes relations depuis la victoire de la révolution islamique de 1979, mais les relations d'Helsinki avec d'autres pays ne devraient pas affecter à part de trop, pays a déclaré Raisi. Il a noté qu'en plus de l'expansion des relations économiques et commerciales, l'Iran et la Finlande peuvent également coopérer sur les droits de l'homme et lutter contre le terrorisme et le crime organisé. Le ministre finlandais des Affaires étrangères, pour sa part, a évoqué 90 ans de relations diplomatiques entre l'Iran et la Finlande, notant que son pays attache une importance particulière aux relations avec Téhéran. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Ebrahim Raisi a souhaité une bonne santé et a souligné la nécessité de renforcer les relations économiques entre l'Iran et la Turquie. Lors d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien lui a souhaité la bonne santé et a souligné l'importance de développer les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine économique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les signataires occidentaux de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de plan global d'action conjoint, doivent prendre une décision efficace et sérieuse pour supprimer l'intégralité des sanctions anti-iraniennes qui violent le point de repère. Amir Abdollahian a fait cette remarque lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Wang Yi tôt mardi, alors que les deux diplomates discutaient des relations bilatérales entre Téhéran et Pékin, ainsi que du processus de pourparlers dans la capitale autrichienne de Vienne sur la levée des sanctions unilatérales imposées à l'Iran. Exprimant sa gratitude pour la position de soutien du gouvernement chinois dans les pourparlers de Vienne sur la levée des sanctions, le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit la politique de Téhéran concernant l'accord et a souligné la nécessité d'avoir une vision logique de la part de l'Occident. La partie occidentale doit prendre une décision sérieuse et efficace concernant la levée des sanctions et démontrer son écart significatif par rapport aux politiques ratées de l'administration américaine précédente, a déclaré Amir Abdollahian à son homologue de chinois. Cela sera possible en supprimant toutes les sanctions contrevenant au plan global d'action conjoint et en adoptant des mesures sérieuses en ce qui concerne la fourniture de garanties que les États-Unis n'abandonneront plus l'accord nucléaire. L'Iran considère la levée des sanctions US comme une ligne rouge pour la relance de l'accord, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Après des consultations dans les capitales avec le gouvernement respectif, les participants vont continuer les discussions selon un bref communiqué. Il s'était quitté fin janvier, appelant à des décisions politiques après les progrès réalisés au cours du mois. Nous serons rapidement à la reprise des pourparlers dans la capitale autrichienne si une entente est possible ou si c'est le début d'une d'escalade et de crise, avait alors souligné un haut responsable américain. De son côté, Téhéran a dit attendre des réponses des Américains sur la levée des sanctions. Il est naturel que la République islamique d'Iran s'attende à ce que les décisions nécessaires soient prises de l'autre côté, en particulier à Washington, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. La question de la levée des sanctions et des bénéfices de qu'en tire l'Iran est la ligne rouge de l'Iran dans les négociations, a déclaré Saïd Khatibzadeh. Nous espérons que la délégation américaine reviendra à Vienne avec des instructions claires sur la manière de remplir ses obligations sur la levée des sanctions, a précisé le porte-parole de la diplomatie iranienne. Le Hamas salue la suspension de l'adhésion du régime israélien à l'Union africaine. Le mouvement de résistance islamique du Hamas a publié une déclaration saluant la suspension de l'adhésion de l'entité israélienne à l'Union africaine en tant que membre observateur. Le mouvement a appelé le comité à traiter la question conformément aux valeurs et principes de l'Union africaine, qui s'oppose à l'occupation et à la discrimination raciale et défend le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Le Hamas a salué les positions de tous les pays africains qui se sont opposés à l'adhésion du régime sioniste en tant que membre observateur, déclarant que ces positions reflètent la cohérence et l'alignement de ces pays avec les principes originaux de l'Union africaine et la protection continue des droits légitimes du peuple palestinien. Le nombre de malades atteints de cancer a doublé à cause des armes utilisées dans l'offensive menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen, a déclaré le ministre de la Santé du gouvernement de Sanaa, Taha Al-Mutawakkil. plus de 60 000 cas de cancer ont été diagnostiqués dans les centres de traitement des tumeurs où il y a une pénurie de médicaments, d'équipements et de diagnostics. Les enfants atteints de leucémie sont en augmentation en nombre alarmant, a-t-il affirmé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Il a ajouté que plus de 3 000 enfants atteints de cancer risquent de mourir à cause du siège et plus de 2 000 enfants atteints de maladies liquides sont privés des soins de santé nécessaires. Le ministre yéménita a rappelé que l'aéroport de Sanaa est fermé et les patients ne peuvent pas sortir pour se faire soigner. En même temps, en raison du siège, il est interdit de faire entrer les médicaments et les fournitures nécessaires. Assurant que l'ouverture de l'aéroport de Sanaa est un besoin humanitaire, il a insisté qu'il fallait l'ouvrir pour permettre aux patients de voyager. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Agression contre le Yémen, la centralisation de l'économie pour le régime des Émiratis le place face à une menace existentielle, a souligné un haut responsable yéménite, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le secrétaire général du Parti démocratique populaire yéménite, Soufyan al-Amari, a déclaré que le régime émirati, qui poursuit son escalade contre le peuple yéménite, expose les Émirats arabes unis à des pertes ouvertes. Placer le régime émirati au devant de l'agression contre le Yémen reflète l'échec des forces hostiles durant les 7 années de leur guerre contre le Yémen, a ajouté M. Amari lors d'une interview accordée à la télévision yéménite Al-Masira, et d'expliquer que la centralisation de l'économie pour le régime émirati le place face à une menace existentielle en cas de poursuite de son agression contre le Yémen. Il a en outre estimé que l'unité de la bataille est une équation stratégique par rapport à l'axe de la résistance et elle ne peut être abolie. Nous trouverons ses effets sur les autres champs de bataille, a-t-il lancé. Ces déclarations interviennent à un moment où la coalition d'agression des Saoudiennes a multiplié ses agressions contre les zones résidentielles au Yémen, très particulièrement contre la capitale de Yéménite, Sanaa. Le correspondant d'Al-Masira a affirmé que la coalition américano-saoudo-émirati a lancé une série de raids contre la capitale Sanaa. Le correspondant d'Al-Masira a rapporté que cette coalition d'agression a mené plusieurs frappes contre les régions d'Al-Hafar, d'Al-Nahdain, dans le district d'Al-Sabayin. Par ailleurs, les avions de la coalition d'agression ont lancé plusieurs raids contre l'aéroport international de Sanaa. Les nombres de ces bombardements risquent de s'alourdir. Les avions de la coalition d'agression n'ont toujours pas abandonné le ciel de la capitale, a-t-il ajouté encore. L'armée yéménite et la résistance yéménite en Sarallah ont récemment intensifié en ripostant à ces agressions barbares de la coalition d'agression. Ont multiplié leurs ripostes contre les envahisseurs en menant des attaques aux missiles et aux drones contre des sites et des installations en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Rappelons que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite mène depuis mars 2015 une guerre meurtrière qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites et a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'Organisation des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les relations entre le Mali et la France se sont fortement dégradées et la mobilisation anti-française se propage à travers le pays et même est très contagieuse puisque au Burkina Faso et au Niger, on a l'impression donc que ces deux pays et donc suivent le modèle malien. Alors, les Maliens exigent que la France cesse de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et quitte ce pays. En effet, la France n'est pas le seul pays qui, depuis plus de 10 ans presque, a essayé de neutraliser économiquement et militairement le Mali et beaucoup de pays africains. Sachez également que le Premier ministre malien, tout en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, a fait clairement entendre que le Mali avait l'intention de se tourner vers l'axe de l'Est. Pas seulement la Russie, mais également vers la Chine et l'Iran pour sauver le Mali. Géopoliticien depuis Bruxelles, Monsieur Michel, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, mon collègue.
Voilà, justement, Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Bonjour, Monsieur Dortiguier.
Monsieur, bonjour, cher monsieur. Monsieur Michel,
auditeurs. Ce que la France a très bien réussi au cours de ces presque 10 années, c'est de neutraliser militairement et économiquement le Mali et bien sûr piller la richesse. Que pensez-vous?
Le but de l'intervention française, c'est pas de combattre le terrorisme. Le terrorisme, au contraire, il fait partie du dispositif militaire occidental. C'est un prétexte à l'ingérence, comme la piraterie dans le golfe de Guinée et au large de la côte de Somalie sert à l'ingérence des marines occidentales. C'est le même phénomène. Aujourd'hui, on a atteint un point de rupture entre le bloc américano-occidental, pas seulement la France, puisque des pays de l'OTAN comme la Suède et le Danemark ont été chassés du Mali. Le point de rupture est atteint des deux côtés. L'Union européenne, vendredi, a pris des sanctions personnelles contre Choguel Maïga et plusieurs membres de son gouvernement. Et tout cela se déroule sur un fond d'accord militaire entre l'État russe, je le précise, et l'État malien qui voit les paramilitaires russes se déployer malgré tous les hurlements du bloc occidental. C'est donc la rupture qui est avérée. Derrière cette rupture, évidemment, elle est constatée par les médias français. France 24 ou Le Point au cours des dernières 48 heures ont publié des éditoriaux en disant qu'il était temps de quitter le Mali. Tout cela se fait sur un fond géopolitique et diplomatique. Il y a un livre qui est sorti cette semaine. Il s'intitule cynismativement « Le déclassement français ». Il explique comment la France est déclassée géopolitiquement, pas seulement en Afrique, mais aussi au Proche-Orient, au Liban et en Syrie, par exemple, ou encore dans le Pacifique face à l'Australie. C'est la décadence de la France, C'est d'ailleurs un sujet, cette déchéance française, ce déclassement français, qui imprègne le débat présidentiel. C'est obsessionnel chez des candidats comme Marine Le Pen, comme Valérie Pécresse ou encore comme Zemmour.
Oui. Monsieur Pierre d'Ortiguier, nous remercions bien sûr Monsieur Luc Michel pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître la vôtre. Donc, il est caché pour personne que la France n'est pas au Mali pour combattre le terrorisme et pour piller la richesse de ce pays, car vraiment, on peut le voir très clairement, comme les responsables maliens, justement, en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, expliquent clairement ceci, n'est-ce pas?
En effet, c'est-à-dire c'est la fin de ce qu'on appelait, M. Luc Michel l'a parlé dans une dernière intervention, de la France-Afrique. C'est une réalité qui a duré plus d'une génération et qui était un arrière-fond, disons, un arrière-plan, qui se tenait, disons, derrière les concessions que la France faisait à l'Algérie, que faisait, disons, à la fin des guerres coloniales. Et il existait, disons, une sorte de forteresse africaine et qui était, disons, pour notre économie, une sorte d'État dans l'État. Et c'est ainsi qu'il faut le voir. Maintenant, ceci, bien sûr, a craqué. A craqué, à notre avis, non pas sous le coup de la résistance proprement locale africaine, mais de par la formation, justement, d'une entente africaine générale, à laquelle l'Algérie a participé, d'ailleurs, qui était à son berceau, et qui aujourd'hui porte ses fruits, du nord au sud de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une ouverture de l'Afrique à des perspectives intercontinentales et non pas simplement à des relations entre anciens ou perpétuels colonisateurs et néocolonisés, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui adoptent une forme nouvelle de politique économique et financière, mais qui est quand même basée, qui est fondée surtout sur un rapport, disons, de dépendance univoque. Et maintenant, bien sûr, comme l'a dit M. Michel, c'est l'OTAN même qui a été visée, disons, à travers le Danemark et la Suède. Enfin, je veux dire que les Africains me semblent avoir une conscience, je dirais, dans le bon sens du terme, conscience mondiale. On parle de vision du monde souvent. Là, il s'agit d'une vision du monde, vous voyez. C'est-à-dire que l'Afrique me semble être entrée, justement, dans cette vision mondiale, l'Afrique elle-même, sa conscience. Et du nord au sud. Et je crois que ça, c'est une conclusion que les candidats auxquels M. Luc Michel a fait allusion, les candidats à la présidentielle, peuvent, disons, donner des étiquettes différentes. Oui. Mais on est obligé, disons, d'en tirer, disons, cette conclusion. Alors, il y a, bien sûr, des slogans. On essaie d'orienter les gens vers l'intervention russe et autres. En fait, tous ces accords, par exemple sur le fameux plan de le rôle des mercenaires dont on parle, du groupe Wagner et autres, ne sont que des effets de relations, diplomatiques. Ce sont des accords, disons, des enchaînements d'accords qui aboutissent donc à des mesures de sécurité. On dit lutte contre le terrorisme, mais cette vague dénomination de terrorisme cache bien sûr des prétextes. Le terrorisme, comme que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient, a été le marchepied, disons, des interventions perpétuelles, interventions, j'entends pas perpétuelles, à longue durée, voyez-vous, que se réservent les anciens États colonisés, colonisateurs ou, comme c'était le cas pour nous, en Orient, protecteur après la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, je crois que nous assistons à une tempête sur l'Afrique, mais une tempête dans une Afrique qui me semble se tenir solidement, voyez-vous, à travers une institution, une conscience africaine plus unifiée qu'autrefois.
Oui. Oui. Luc Michel, tout à l'heure, vous avez évoqué certaines chaînes françaises que, d'après des hommes politiques maliens, exercent un terrorisme médiatique. En fin de compte, la France possède tout de même le média, n'est-ce pas?
C'est tout à fait exact. Ce sont des chaînes qui concernent notamment des médias d'État, France 24, RFI, qu'on appelle en Afrique Radio France Intoxication. Il y a également Arte ou Euronews qui sont cofinancés par Berlin et Paris. Tous ces gens, quotidiennement, dans des dizaines d'articles, exercent un terrorisme, diffament la révolution malienne. On prend par exemple des généraux du Mali alors qu'il n'y a pas de généraux derrière le coup d'état militaire. Ce sont des colonels comme l'était le colonel Kadhafi. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner. C'est un phénomène géopolitique. Il y a quelques années, en 2015, le grand état-major français avait rendu un rapport à l'Élysée. On lui demandait d'identifier l'ennemi de la France et de l'OTAN au cours des 20 prochaines années. Ils avaient dit que ça allait être la Russie, alliée au néo-panafricanisme. Ça a été exact. Aujourd'hui, les forces vives de l'Eurasie en marche, à Pékin, à Moscou et à Téhéran, sont unifiées aux forces vives de l'Afrique en marche du néo-panafricanisme dans une alliance dynamique. C'est ce que j'appelle l'axe Eurasie-Afrique. Cet axe Eurasie-Afrique, il est en train de combattre contre le bloc occidental pour un monde multipolaire et pour mettre un terme au néocolonialisme. C'est cela que les Occidentaux n'ont pas vu arriver, en particulier avec la guerre hybride des Russes et des Iraniens. Vous savez que la guerre hybride, c'est une invention iranienne au Liban en 2010. Elle est aujourd'hui exportée en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Venezuela par exemple et au Nicaragua. C'est la réalité géopolitique du monde de 2021. Au milieu de tout cela, l'agression occidentale, ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2010 ou le printemps africain de 2014, ils sont mis échec et bat.
Oui. Luc Michel, pour confirmer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le Premier ministre malien a fait clairement entendre que le Mali se tournait vers l'axe de l'Est. Bon, vous avez évoqué la Russie, bien sûr, et même les responsables maliens ont déclaré tout récemment qu'ils avaient acheté des armes à la Russie et pendant ces 20 jours, ils ont tué plus de terrorisme que depuis 20 ans
oui,
les autres forces.
C'est tout à fait exact. Depuis l'intervention des Russes il y a quelques semaines, il y a des résultats. Il y a des terroristes qui sont identifiés et mis en état de nuire. Il y a en particulier une colonne à moto. Il y avait près de 300 motos. Les autorités algériennes, le service de sécurité algérien, disent que c'est les Français qui avaient fourni les motos aux djihadistes. Une colonne a donc été arrêtée par les services maliens et algériens à la frontière entre les deux pays. On avait vu le même phénomène en Centrafrique. Nous sommes en janvier 2021, alors que depuis 8 ans, les Français et l'ONU, donc les casques bleus de la MINUSCA, sont incapables d'empêcher les groupes rebelles. En quelques semaines, en 21 semaines, ils sont neutralisés par les FACA alliés aux paramilitaires russes, non pas du groupe Wagner qui n'existe pas, mais du groupe Sewa Security. Et en 21 semaines, l'autorité de l'État centrafricain est rétablie sur toutes les préfectures du pays. C'est le même phénomène qui est mis en route, évidemment, au Mali. Et les Occidentaux sont complètement paniqués parce que l'imposture occidentale, la soi-disant guerre au terrorisme qui n'a rien donné en 8 ans, il y a eu 53 morts français. C'est une farce. Au Vietnam en 1960, entre 1960 et 1968, les Américains, dans une véritable guerre pour le contrôle du pays, ils ont eu plus de 100 000 morts. 53 morts, c'est un théâtre, c'est ridicule. L'imposture occidentale et française, elle apparaît au grand jour. Elle est en train d'être démontrée avec l'efficacité de l'armée russe, armée alliée à l'armée locale, ici les FAMA, comme elle est alliée à l'armée locale en Centrafrique des FACA.
Oui. Pierre Dortiguier, votre prise de position, je vous prie, face à ce rapprochement du Mali à la Russie, mais également à la Chine et l'Iran. car les responsables maliens se semblent très contents de se rapprocher et de se tourner vers l'axe de l'Est.
En effet, c'est-à-dire qu'il s'agit là, c'est l'avantage d'un rapport, je dirais, équivoque, d'un rapport, disons, ouvert, un rapport univoque. Ce qu'on appelle un rapport univoque, c'est-à-dire lorsque les alliances sont en réalité des subordinations de politiques, économiques, c'est ce que nous appelons la France-Afrique. Évidemment, disons que les États africains, qui sont les États hôtes, sont obligés de se soumettre à une stratégie qui, dans le cas du Mali, considéré les groupes terroristes comme finalement des occasions d'intervention. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois, disons, pourchassés, en même temps qu'ils étaient, si je puis dire, mis de côté, c'est-à-dire mis en réserve. Et il ne s'agissait pas d'une guerre ouverte, d'une guerre, peut-on dire, d'élimination. Non, il s'agissait d'un prétexte renouvelé, voyez-vous. C'est-à-dire l'essentiel étant la présence continuelle. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle une présence, une sorte de tuteur colonial, voyez-vous, néocolonial, postcolonial, quels que soient les mots. Je crois que là, réaction de ce qu'on appelle ici, de façon caricaturale, la junte militaire, on essaie de dire, oui, il n'y a pas eu d'élection, etc., ce n'est pas démocratique, et tout ceci ne tient pas face à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que la population souffre de plus en plus, justement, de cette guerre, voit le terrorisme, disons, étendre son influence, malgré les injections d'hommes, de matériel que nous faisons en France et en Europe. Donc, il y a bien un but, il y a bien, disons, je ne dis pas une intention cachée, mais une direction quand même, que le peuple est capable de voir, puisqu'il en souffre immédiatement. Je crois que cette réaction de la part du gouvernement malien a d'abord été, en premier, et le sera, une réaction populaire. Et ceci est une réaction, disons, qui peut ébranler l'ensemble de l'Afrique. Je crois que les Africains ont été immédiatement sensibles, tous, justement, à cette réaction-là. Elle n'était pas attendue, car il y a toujours eu une sorte de morgue, si je puis dire, néocoloniale, postcoloniale, qui consiste à considérer l'Afrique comme un grand enfant, voyez-vous. Je crois que c'est M. Michel ne me contredira pas. C'est une maladie, si je puis dire, qui est une sorte qui est un manque de mûrissement, je dirais, à la fois dans la conscience mondiale, que nous n'avons pas. Les Français, malheureusement, sont élevés dans une attitude postcoloniale et non pas dans une attitude de connaissance du monde, comme celle que le président de Gaulle avait voulu insuffler. Et là, il a échoué. C'est la France-Afrique, au contraire, qui s'est maintenue à travers lui, je dis bien, mais aussi après lui. Voilà, c'est cela qui compte, et cela aura des répercussions, à notre avis, très importantes sur le plan intérieur français.
Luc Michel, les répercussions que M. Pierre Dortiguier fait allusion, est-ce qu'on peut parler d'une mobilisation anti-française à travers toute l'Afrique?
Oui, dans tous les pays africains, les masses néo-panafricanistes sont vent debout contre la France. C'est un phénomène nouveau, cette irruption des masses panafricaines. Aujourd'hui, les chefs d'État qui étaient des sous-préfets français comme Alassane Ouattara ou Mohamed Bazoum au Niger, ils sont obligés de tenir évidemment compte de ces masses et de prendre en compte leurs préoccupations. C'est le résultat du travail unique au monde d'un média qui est nos confrères d'Afrique Média, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis bientôt cette année. C'est Afrique Média qui a conscientisé les masses et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'Africains qui sont mobilisés. Par exemple, au Mali, il y a eu des manifestations vendredi. Bamako s'est couvert de drapeaux russes et chinois. Les dernières manifestations n'ont pas réuni quelques centaines ou quelques milliers de Maliens, comme le disent les médias français, mais près de 4 millions. C'est cela la réalité. Maintenant, il faut dire un mot sur le général de Gaulle, parce que il faut quand même dire que c'est l'homme politique français qui est le plus détesté en Afrique. De Gaulle, ça a été un libérateur en Afrique. On se souvient de son slogan de l'Europe jusqu'à l'Oural avec l'URSS. Ça a été un libérateur au Mexique et au Québec. ça a été un libérateur à Phnom Penh en Indochine, mais en Afrique, ça a été un néocolonialiste et un néo-esclavagiste. Avec son arme d'un effoqueur qui dirigeait les services de police secrète du gaulliste, il a mis au point cette France-Afrique qui, en fait, était un mécanisme de confiscation des indépendances africaines au bénéfice de la France. Pourquoi est-ce que la France est au Mali, par exemple, et au Niger? C'est pour l'uranium de ces pays. La France, elle exporte avec Areva des centrales nucléaires, mais on ne produit pas une once d'uranium sur le sol français. L'uranium, il est volé au Niger, il est volé au Mali. C'est cela qui se termine. Par exemple, le grand concurrent russe d'Areva, qui est Rosatom, puisque Rosatom est présent maintenant dans 15 pays africains, par exemple, il produit son uranium en Mongolie extérieure sur le territoire russe. Voilà la différence. On vole le pétrole, on vole le gaz, on vole l'or, on vole le manganèse. La France a, par exemple, les quatrièmes réserves d'or mondiales, alors qu'on ne produit pas d'or sur le territoire français, pas plus que d'uranium. L'or des réserves françaises, il est volé en Afrique. Il est temps que ça se termine. Et l'homme qui a avalisé ce vol et qui l'a mis au bois avec Foucault, c'est le général de Gaulle.
Pierre d'Ortiguier, est-ce que la France va laisser la main à la Russie? Car on voit que la dernière carte à jouer par la France, c'est la sanction exercée économiquement à l'encontre de 5 responsables importants maliens en gelant leurs biens, en leur interdisant d'entrer sur le sol des pays occidentaux. Est-ce que la France va laisser la main?
Je pense que la France sera obligée de laisser la main, car, disons, le combat est trop élevé pour elle. La France ne peut pas avoir, disons, d'efficacité. C'est un slogan peut-être, mais enfin c'est une réalité à mon avis, qu'à l'intérieur d'une entente européenne. Or, cette entente européenne d'hostilité à la Russie n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée par l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne s'est divisée. S'est divisée d'une façon, convenue. Dans l'ordre, comme toujours, comme ce qu'elle fait. Elle a une partie qui est favorable à la Russie, une partie qui est favorable aux États-Unis, et je crois que la France, son influence en Europe est par la même réduite, dans la mesure où, je répète sur ceci, l'Allemagne, elle, tente vers les États-Unis ou vers la Russie, d'augmenter sa propre influence. Cette politique franco-allemande, qui était celle d'ailleurs du général de Gaulle autrefois, n'est plus de mise aujourd'hui. Et donc la France se retrouve isolée, affaiblie, voyez-vous, considérablement affaiblie. Et je crois qu'elle ne peut pas jouer le même rôle qu'elle a prétendu jouer jusque, M. Sarkozy ou M. Hollande. Je crois que c'est là une fin de chapitre. Et ces événements du Mali sont, à mon sens, la véritable fin de l'ancien colonialisme français.
Luc Michel, vous aurez le dernier mot du débat d'aujourd'hui. Votre réaction, je vous prie.
La France, elle n'est pas prise seulement dans une tenaille face au bloc de l'Est et surtout à la Russie. Elle est également prise dans un triangle d'acier. Il y a le bloc de l'Est, il y a les masses panafricaines, mais la troisième mâchoire de la tenaille, c'est ceux qui étaient les alliés de la France, les Américains. La France-Afrique s'est maintenue pendant 60 ans parce que la France avait noué une alliance avec les Américains à partir de Giscard d'Estaing. On disait que la France était le gendarme de l'Afrique, Donald Trump disait le shérif. Mais depuis 2019, les Anglo-Saxons, les Britanniques et les Américains, ils sont en rivalité économique, c'est le Brexit par exemple, avec les Français, et ils veulent reprendre les marchés africains des mains des Français. Les Américains veulent donc américaniser et otaniser la guerre du Sahel en l'enlevant aux mains des Français. C'est cette perte de l'allié américain que payent les Français, ils ne s'en sont pas rendus compte. Le journal Le Temps, il y a quelques jours, disait que l'arrogance d'Emmanuel Macron n'avait d'égal que sa stupidité. Macron joue les proconsuls au Liban Ils jouent les sauveurs de la paix en Russie. Ils rencontrent Poutine ce jour. Mais en même temps, ils adoptent des sanctions contre les amis de Poutine qui sont les dirigeants des firmes paramilitaires russes. Ils agressent la Russie en Ukraine, en Méditerranée, un peu partout en Mitteleuropa et également au Proche-Orient. La France, évidemment, elle paye cette attitude ambiguë et elle paye surtout cette posture géopolitique où elle joue qu'on va être un des cinq grands alors qu'elle est une petite puissance déclassée au milieu d'une Europe qui, elle, n'est qu'un nain géopolitique alors qu'elle est un géant économique. Au sein même de l'Europe, la France s'est déclassée en combattant l'Allemagne, en Libye par exemple, etc., etc. La France n'a pas compris qu'on était dans une nouvelle ère géopolitique. Elle le paye aujourd'hui. C'est la fin de la France-Afrique. Il y a quelques semaines, lors du sommet de Montpellier, la dernière biographie de la France-Afrique a été sortie. Elle s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de l'Empire français. Et le responsable, c'est Emmanuel Macron, avec ses homélies, Madame Parly et Le Drian. Le Drian, le nouveau monsieur Foucault. Mais Foucault avait bâti la France-Afrique. Le Drian, lui, avec son arrogance, il est en train de la détruire.
Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Une partie de nos exigences n'a pas été prise en compte dans le domaine de la levée des sanctions, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné que les négociations de Vienne seront bientôt reprises et il a insisté qu'une partie des exigences de Téhéran n'a pas été prise en compte en matière de levée des sanctions. Lors d'une conférence de presse avec son homologue finlandais Pekkar Haavisto, faisant référence aux négociations de Vienne, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que nous poursuivrons nos efforts pour parvenir à un bon accord, voire immédiat, avec optimisme, sérieux et bonne foi. Dans le domaine de la levée des sanctions, certaines de nos revendications n'ont pas été prises en compte, a-t-il ajouté. Dans les prochains jours du processus de négociation de Vienne, notre collègue M. Barreri et nos experts se concentreront sur le document à convenir dans lequel les différentes parties reviendront et déclareront leur attachement à leurs engagements au sein du plan global d'action conjoint, a réitéré Amir Abdollahian. Nous espérons qu'à ce stade, nous pourrons parvenir à un bon accord final, a-t-il continué, soulignant que le fait que nous puissions parvenir à un bon accord dans les prochains jours lors de ces négociations dépend des intentions, de la confiance et du comportement des trois pays européens et des États-Unis. Les relations Iran-Finlande sont fortes et sur la bonne voie, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, ajoutant que l'Europe est un potentiel important dans le domaine de la politique étrangère iranienne. Aujourd'hui, lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Finlande et le ministre iranien de l'économie, un document pour éviter l'imposition davantage d'impôts sera signé entre les deux pays, a évoqué le ministre iranien des Affaires étrangères, rappelant que les deux pays ont 12 documents plans de coopération. Et aujourd'hui, nous les avons examinés, nous avons insisté sur la mise en œuvre afin de développer les coopérations irano-finlandaises. Le statut d'observateur d'Israël au sein de l'Union africaine suspendu. Réuni dimanche 6 février à Addis Abeba, le sommet de l'Union africaine a suspendu la décision du président de la Commission africaine Moussa Faki d'accorder à Israël le statut d'observateur. Selon le site d'information algérien Reporters, cette suspension représente une victoire fortement symbolique de la diplomatie algérienne. Alger s'est radicalement opposé depuis l'été dernier à l'initiative du commissaire panafricain Moussa Faki. Elle est soutenue par l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'île Maurice, la Tunisie, Djibouti, la Mauritanie et la Libye. Le camp des opposants au statut d'Israël, comme en fait observateur, ne cesse de s'élargir, indique Reporters, faisant référence entre autres à la conférence régionale africaine organisée par l'Observatoire de la Veille pour les droits de l'homme et les causes justes, au cours de laquelle les participants ont appelé le 35e sommet des chefs d'État à annuler la décision contraire aux dispositions des statuts de l'Union africaine et aux valeurs des peuples africains d'accorder le statut d'observateur à Israël. Toujours selon ce site d'information algérien, le rapport accusatoire de l'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, de l'apartheid pratiqué par Israël envers les Palestiniens a eu un écho médiatique et politique considérable dans le monde. En Afrique, le constat d'Amnesty qu'Israël pratique contre les Palestiniens un système cruel de domination, un crime contre l'humanité, a provoqué un regain d'indignation des opinions publiques, des opinions politiques et des sociétés civiles et des pays qui disposent d'un poids et d'une influence considérable au sein de l'Union africaine. Il s'agit en particulier de l'Afrique du Sud, où le mot apartheid rappelle une époque sinistre et dont la position similaire à celle de l'Algérie a été d'être depuis le début contre le retour d'Israël en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. S'il n'est pas encore question de retrait, mais de suspension, le camp des opposants au statut d'Israël, comme en fait observateur, n'a pas cessé de s'élargir, conclut le site algérien. La conseillère spéciale de la présidence syrienne, Madame Boussaina Chaban, a mis l'accent sur le partenariat syro-iranien dont le but est le destin, ce qui nécessite un partenariat parallèle dans le domaine médiatique. Lors de sa rencontre avec Ahmad Nourouzi, de chef adjoint de la radio et de la télévision en Iran et de chef du bureau d'information étrangère et la délégation qui l'accompagne, Chaban a indiqué que l'aspect médiatique est essentiel dans la guerre entre l'axe de la résistance et l'Orient d'une part et les pays occidentaux de l'autre, car les médias ont un rôle complémentaire à la politique et à l'économie. Elle a souligné la nécessité d'élaborer des plans et de nouvelles façons de dialogue avec l'Occident en mettant l'accent sur la qualité de nos contenus médiatiques. Chaban a déclaré que l'Iran mène une guerre à multiples façades dans ses négociations sur le dossier nucléaire et que la coordination médiatique n'est pas moins importante que la coordination dans d'autres domaines. À ce propos, Boussaina Chaban a exprimé sa confiance que l'Iran sortira vainqueur de ses négociations sur le dossier nucléaire. La rencontre a également porté sur les perspectives de coordination médiatique entre les deux pays face à l'attaque médiatique hostile au pays de l'axe de la résistance. Chaban a affirmé à la partie iranienne la nécessité de mettre en place des plans adéquats accompagnés d'un travail diligent et de déployer tous les efforts possibles pour défendre nos droits et nos questions. Elle a souligné le besoin d'une planification scientifique et méthodologique pour arriver à une vision qui sera financée et mise en œuvre sur le terrain, et en plus d'impliquer le côté culturel et artistique dans ce domaine, tout en trouvant des mécanismes de travail appropriés. Pour sa part, Nourouzi a affirmé que la Syrie occupe une position très particulière dans les médias de l'Iran, qui était certain que la Syrie gagnerait l'immense guerre à laquelle elle a été soumise ces dernières années. Il a souligné que la lutte de l'Occident contre nos médias est la preuve de sa forte influence sur la nécessité d'élaborer des plans conjoints nécessaires afin de parvenir à la poursuite et au développement de l'information. Il a affirmé que l'Iran s'attache à lever complètement les sanctions dans ses négociations sur le dossier nucléaire. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.